c'est assez étonnant parce que on est vraiment dans des situations très différentes. Et malgré tout, on va pouvoir remarquer des points de ressemblance dans ce travail de la propagande, dans la manière aussi d'animaliser cet ennemi, puisque pour les Juifs, on parlait de vermine ou de rats, et pour ce qui concerne les Tutsis, on parlait de cancrelats. Et puis après, il y a eu des mesures de mise à l'écart, de ségrégation sociale, qui ont certainement été plus poussés en Allemagne, mais malgré tout, au Rwanda, il y avait des quotas, par exemple, qui limitaient l'accès des Tutsis à certaines professions, etc. Donc, on a des éléments comme ça. Maintenant, l'originalité, si j'ose dire, du génocide au Rwanda, c'est ce qu'on pourrait appeler un génocide de proximité. C'est-à-dire que c'est un génocide qui se fait sur place. Et donc, ça donne au rapport entre bourreau et victime une connotation très particulière qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le cas du génocide des Juifs.
D'un point de vue politique, une analogie assez surprenante, il y a dictature généralement dans les pays où il y a génocide.
Effectivement, dans le cas de l'Allemagne nazie, on est dans un État qui est certainement une dictature. On a même parlé d'un système totalitaire. Dans le cas du Rwanda, on est dans une situation politique qui peut certainement être qualifiée d'autoritaire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on en arrive un peu à une généralité qui est souvent mentionnée par différents auteurs, c'est-à-dire qu'un pouvoir absolu tue absolument. Vous voyez, il y a une sorte de liaison directe entre pouvoir total et destruction totale. Je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces pouvoirs se mettent à tuer en situation de guerre. C'est précisément parce que ces pouvoirs se sentent peut-être faibles ou vulnérables, parce qu'ils ne sont pas sûrs de gagner la guerre, qu'ils entendent tuer une partie de la population qu'ils considèrent comme une partie ennemie.
La notion de pardon revient constamment lorsque l'on évoque le terme génocide. Ce qui est frappant, c'est que la plupart du temps, les tueurs n'éprouvent pas de culpabilité.
Tout à fait. À mon avis, il faut rechercher à la fois une explication idéologique. Eh bien, probablement, s'ils se sont engagés dans ce type de pratique, c'est qu'ils y croyaient, c'est-à-dire qu'ils pensaient véritablement que ça devait se faire. Et l'explication qui est peut-être psychologique, qu'il faut aussi avancer, c'est que si ces gens prennent véritablement conscience de ce qu'ils ont fait, ils s'effondrent littéralement sur le plan psychologique. Revenir à soi, redevenir humain, pour un bourreau, c'est extrêmement difficile, parce qu'il faudrait qu'il reconnaisse la monstruosité de ce qu'il a fait, et en ce cas, il s'anéantit lui-même.
Derrière ce mot génocide, il y a la notion d'après-génocide, puisqu'un génocide marque à jamais un pays, un peuple. Et on vient de le voir avec le Kosovo, les forces de paix internationales, les solutions armées ne résolvent en rien le fond du problème.
Ben oui, comme si la paix venait des autres, comme si la paix c'était un kit qu'on pouvait appliquer dans toutes les circonstances. Non, la paix c'est un processus qui doit venir de la société elle-même. Et le processus de sa reconstruction ne peut venir que des acteurs locaux. Alors, évidemment, l'aide extérieure est toujours essentielle, mais cette aide extérieure, elle doit appuyer, relayer, soutenir les acteurs locaux, mais non l'inverse.
On sait maintenant qu'il y a de nombreuses similitudes d'un génocide à l'autre, on vient de l'évoquer. On sait notamment qu'ils sont souvent prémédités. Est-ce qu'il est possible de prévenir un génocide ?
Écoutez, je voudrais le croire. Si vous voulez, on a les moyens, on a déjà des outils pour prévenir les génocides. Mais après, le problème, c'est la volonté politique des États d'intervenir. Et là, malheureusement, je deviens pessimiste.